Entourage, présenté par Kevin et Larbi. Une bulle d'intimité sur Beta Série, la radio.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour un nouveau numéro d'Entourage, un numéro délocalisé, si on peut dire aujourd'hui, puisqu'enregistré à l'hôtel Normandie, le mythique hôtel de Deauville, où j'ai le bonheur de me trouver depuis quelques jours à la 46e édition du Festival du film américain, où je suis pour présenter mon livre sur le cinéma américain, mais aussi les films présentés et sélectionnés par OCS, le partenaire principal du Festival de Deauville. L'occasion pour nous de vous proposer un numéro d'Entourage autour du genre documentaire ou plutôt du genre série documentaire, puisque le Festival du film américain de Deauville a également sa sélection des documentaires exceptionnels autour de cinéastes, autour de cinéma, mais aussi autour de séries, puisque depuis quelques années, les festivals de cinéma font le pont entre cinéma et séries, et ce sera le cas dans quelques mois pour Cannes, comme l'ont confirmé Pierre Lescure et Thierry Frémaux à l'ouverture du Festival de Deauville, où le Festival de Cannes a été jumelé cette année de par les circonstances sanitaires. Aujourd'hui, donc, dans Entourage, nous allons nous entretenir avec des cinéastes, puisque ce sont des cinéastes qui réalisent des séries documentaires, également avec des producteurs de ces séries documentaires ou de ces films documentaires. Comment produire un film documentaire. Kirk Douglas, l'acteur décédé en début d'année à 103 ans, est l'emblème de ce festival de Deauville, un festival où il aimait beaucoup venir. Le film Kirk Douglas l'Indompté, réalisé par Hubert Attal, a été présenté ici avec un magnifique discours de Kirk Douglas en introduction. J'ai pu m'entretenir avec le réalisateur donc, de ce documentaire événement, Kirk Douglas l'Indompté, que vous pouvez déjà retrouver sur OCS Go à la demande. Un entretien avec Hubert Attal donc sur la réalisation d'un film documentaire, sur ses références dans les films documentaires, qui sera suivi d'un court entretien avec le producteur du film, Vic Desmaillot. Kirk Douglas l'Indompté, quelques extraits sonores et puis on retrouve ensuite le réalisateur.
OCS, partenaire officiel du 46e Festival du cinéma américain de Deauville. OCS, vous êtes fan, nous aussi.
Alors je suis très content d'être avec le réalisateur de Kirk Douglas l'Indompté, Kirk Douglas qui est donc l'icône de ce 46e festival de Deauville. Alors avant de parler de la réalisation du genre documentaire, puisque vous êtes un grand habitué du genre, peut-être tout d'abord parler de Kirk Douglas, Hubert Attal. Quelle a été votre première approche avec cet acteur? Le premier film peut-être enfant ou peut-être plus tard?
Alors je pense que c'est vraiment Kirk Douglas, c'est vraiment des souvenirs d'enfance. C'est pour moi, c'est des films qu'on voyait. Il y avait des films qui étaient diffusés sur la chaîne nationale à 4h30 le dimanche après-midi. Et pour moi, Kirk Douglas, c'est ça, c'est le western, des épopées incroyables, des bagarres incroyables. Et quand je pense à Kirk Douglas, c'est le premier film qui me vient que je mets un peu au-dessus des autres, mais c'est très personnel. C'est L'homme qui n'a pas d'étoile.
Kirk Douglas, qui est donc décédé en début d'année à 103 ans, après plus d'un demi-siècle dans le cinéma américain. C'est un documentaire que vous avez écrit également, en plus de l'avoir réalisé. Quand avez-vous eu l'idée de faire ce documentaire? Et le montage a-t-il changé à partir du moment où on a appris la disparition de Kirk Douglas, qui était déjà très affaibli par une attaque depuis quelques années?
Alors, l'idée ne vient pas de moi, elle vient du producteur qui s'appelle Vic Desmaillot. Et donc il m'a proposé de faire le film et évidemment j'ai dit oui et on l'a tourné pour les 100 ans de Kirk Douglas. C'est pour ça que dans le film il y a des images de l'anniversaire et on a été le tourner donc avant ce fameux anniversaire en même temps qu'on a tourné un film sur Mel Brooks.
D'accord. Et comment écrit-on un film sur Kirk Douglas? Avez-vous écrit le documentaire après avoir tourné des images? Aviez-vous déjà une idée de la construction du montage? Comment écrit-on justement un film documentaire et plus particulièrement celui-là, avec quelqu'un qui, encore une fois, a plus de 70 ans de cinéma?
Ça s'écrit quand on fait un portrait comme ça et puis qu'on retrace 100 ans. Je veux dire, c'est une vie incroyable. Alors c'est moitié... allez, soyons honnêtes, un tiers de souvenirs, parce que moi je ne possède pas tout de... C'est d'abord mes souvenirs de cinéphile et puis deux tiers de documentation. On part rechercher tous les articles, toutes les interviews qu'il y a eu dans les cahiers du cinéma, dans Positif, ça a été plutôt positif. Dans il n'y a pas eu que ces deux grandes revues, j'en ai trouvé sur d'autres revues qui depuis ont disparu, et tout était très intéressant, plus évidemment les archives de l'INA, les entretiens qu'il a eu avec François Chalet, France Roche, parce qu'il est souvent venu en France, parce qu'il aimait beaucoup la France, il aimait beaucoup parler français, il a appris à parler le français en 10 jours, parce qu'on pense que Kirk Douglas c'est une force physique, mais c'est aussi une force intellectuelle.
Oui, tout à fait. Vous venez de citer François Chalet et France Roche. Pour nos plus jeunes auditeurs, ce sont deux journalistes très importants dans le cinéma des années 50 et 60. Et d'ailleurs, sur OCS, où est programmé Kirk Douglas l'Indompté, il y a également toutes les vidéos de François Chalet, les Cinépanoramas, que je vous invite évidemment, jeunes auditeurs, à regarder. Pour continuer justement sur l'écriture de ce documentaire, Kirk Douglas l'Indompté, disponible sur OCS Go, est-ce que vous avez eu des liens avec la famille de Kirk Douglas? Michael Douglas a présenté ici à Deauville l'introduction à l'hommage à son père. En ouverture, avez-vous eu des liens avec la famille, avec les proches, dans l'écriture et dans la préparation, hein, j'entends, du documentaire?
Alors non, dans l'écriture, non. Je crois que c'est, à ma connaissance, le seul documentaire qui aujourd'hui existe sur Cœur de Glace. Donc il fallait, de toute façon, passer par la famille Cœur de Glace. Donc ça a été Aliza Bental et Gordon Davidson qui ont été nos médiateurs avec la famille de Douglas et qui nous ont autorisé beaucoup de choses. Alors je fais une mention pour Gordon Davidson parce que c'est l'ex-patron, il est décédé depuis, Gordon Davidson Kirk Douglas Theater, qui était un théâtre qui a été financé par Kirk Douglas et qui a eu une importance culturelle très considérable à Los Angeles à partir des années 80, où beaucoup de jeunes réalisateurs qui allaient devenir des grands noms du cinéma ont appris beaucoup de choses. C'est aussi une des dimensions de Kirk Douglas qu'on ne connaît pas. C'est un homme très généreux, c'est un acteur grandiose, mais c'est aussi, ça a été aussi un mécène pour le théâtre.
Et vous parliez justement d'un Kirk Douglas qu'on ne connaît pas. Alors, je pense que les gens qui les plus cinéphiles français seront peut-être surpris de découvrir l'importance politique qu'a eu Kirk Douglas, parce que c'était un artiste éminemment engagé. Quand vous avez réalisé ce documentaire, y a-t-il des choses qui vous ont surpris, que vous avez découvert justement sur Kirk Douglas, sur son engagement politique et la force de cet engagement justement?
Je connaissais grosso modo. Évidemment, le Kirk Douglas engagé, mais comme un cinéphile français un peu de base. Après, quand on rentre dans l'histoire et qu'on rencontre les gens, la famille, effectivement les gens qui l'a défendu, il a eu une importance beaucoup plus considérable qu'on le pense en France. Et c'est vraiment lui qui a mis fin au macartisme, comme je le raconte dans le film, en amenant Dalton Trumbo à la cantine d'Hollywood, parce que c'était un personnage caché. Son nom avait commencé à apparaître sur les génériques de Exodus de Preminger et donc de Spartacus de Kubrick, mais il est resté caché. Et donc Kirk Douglas un jour a pris sa voiture, a été le prendre par la main et l'a amené à la cantine d'Hollywood, et personne n'a moufté. Et ça a été ça qui a mis définitivement fin au macartisme. C'était fini. Et bon, en plus de ça, c'était un démocrate très convaincu. Il a eu une importance, ses interventions auprès de l'opinion publique américaine ont toujours été très importantes, et y compris un peu avant sa mort, quand il s'en est pris à Trump. Sa voix a été beaucoup plus importante, a été entendue de manière beaucoup plus importante que des acteurs très connus d'aujourd'hui.
Et vous avez totalement raison de le signaler, hein, le macartisme, donc, puisque on en parle souvent, hein, dans cette émission, et qui renvoie à un temps de censure, hein, aux États-Unis, avec ce fameux code Hays également qui censurait la liberté d'expression dans le cinéma. Vos trois films que vous riez de la carrière de Kirk Douglas, qui s'étend sur plus de 70 ans, quels seraient-ils?
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'aime beaucoup L'homme qui n'a pas d'étoile. Je crois que c'est aussi l'opinion de Bertrand Tavernier. C'est vraiment un film qui pour moi est exceptionnel parce que en fait il résume le point de vue de Kirk Douglas sur les choses. Il y a une barrière, il faut la défaire. Voilà, c'est aussi bête que ça, et c'est pour ça qu'il est devenu le premier producteur indépendant des studios d'Hollywood. Il a vu ça, ce système des studios, comme un système de barrière. Il l'a défoncé. C'est ce qui s'est passé. Après, moi, j'aime beaucoup Les Ensorcelés, le film de Minelli. Bon, voilà, c'est un grand film. sur le système hollywoodien, sur la grandeur du système hollywoodien, même si lui a amené une originalité en devenant ce producteur indépendant. Et le troisième, évidemment, le Van Gogh, où il fait une composition stupéfiante, à ma connaissance, il y a très peu d'équivalents dans l'histoire du cinéma, et puis où il a failli perdre la raison, il a failli y rester. Voilà, il est arrivé à la limite, et ça se voit dans le film.
Voilà, effectivement, Van Gogh qui est d'ailleurs projeté en version restaurée dans ce festival de Deauville, avec une sélection qu'a fait Bruno Bard, le président du festival de la filmographie de Kirk Douglas. Kirk Douglas, La Montée du Bératal, c'est donc sur OCS Go. Peut-être parler pour les étudiants en cinéma qui nous écouteraient, ou alors les aficionados du genre, votre parcours dans le genre des séries documentaires, parce que vous en êtes loin dans votre premier coup d'essai. Alors, comment êtes-vous rentré justement dans cet univers du documentaire ? Est-ce que c'était une vocation ? Est-ce que c'était un hasard ? Et qu'est-ce qui change dans l'écriture et la réalisation d'un documentaire ou d'une série documentaire, d'une série normale ou d'une fiction normale ?
Moi, je fais un travail un peu particulier. Les principaux de mes films sont sur l'histoire du cinéma. Donc, j'ai fait une série pour Ciné Plus sur l'histoire des grandes villes dans leur rapport avec le cinéma, comment le cinéma a dégagé un visage de chacune de ces villes très particulier, qui est très très différent de le visage de ces villes en littérature ou en peinture ou dans toute autre forme d'expression. Qui m'a beaucoup amené, parce que c'était très, ça m'a permis de revisiter ma cinéphilie de manière très différente.
Comment cela ?
Parce que quand on voit les lieux où ont été tournés les films, il y a des choses qu'on comprend par rapport au contenu du film, tout bêtement. Mais après, c'est ma subjectivité. Je n'ai pas mis ça en commentaire dans les films. Après, j'ai décliné la particularité de chacune de ces villes. Mais d'un point de vue personnel, ça m'a beaucoup de revisiter les lieux. Ça m'a beaucoup amené. Par exemple, hier, je voyais le documentaire sur Stanley Kubrick, et par exemple, d'apprendre que Full Metal Jacket a été tourné dans un lotissement, toutes les scènes de guerre dans un lotissement qui faisait 1,5 hectare à l'ouest de Londres, c'est très stupéfiant. C'est des choses, moi, ça m'étonne à chaque fois. Parce qu'il y a une recréation que le cinéma amène, que l'image du cinéma amène des lieux, qui est une espèce de magnificence des lieux, qui est le propre du cinéma, en fait. Après, quand vous voyez des lieux, vous dites « Ah, ce n'était que ça ». Et en fait, c'est la grandeur du cinéma de faire apparaître les choses en plus grand, précisément.
La force du cinéma américain, notamment, hein, puisqu'il y a certains lieux qui font partie de personnages principaux du film. Je pense à cette maison dans Sunset Boulevard de Billy Wilder, par exemple, qui est presque un personnage principal. Avez-vous des idées de lieux, de grands lieux de films américains, où justement, c'est ce que vous disiez à l'instant, où quand vous êtes arrivé sur le lieu, vous vous êtes dit... La lumière magnifie beaucoup plus, c'est beaucoup plus magnifié dans le film, c'est pas la même chose que je vois. Vous, des idées justement pour les cinéphiles, certainement à Los Angeles d'ailleurs, plus, mais...
Je cherche... c'est plutôt quand j'ai fait le film sur Chicago.
D'accord.
Chicago, ça m'a beaucoup stupéfait. Ouais, c'est une ville qui m'a beaucoup impressionné. Et effectivement, le cinéma a complètement métamorphosé la ville, quoi. C'est pas la ville. Alors, dans les films plus contemporains, ceux qui sont faits à partir des années 80, comme par exemple les Blues Brothers, on a une image beaucoup plus réelle et réaliste de Chicago, mais tout ce qui a trait au film sur, évidemment, Al Capone et la Grande Dépression, Chicago, à l'écran, n'est pas la même que dans la réalité. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup... Le centre de Chicago, c'est là où on a édifié les premiers gratte-ciels aux États-Unis. Donc, on peut quand même comparer... les quartiers ont été préservés. Et on voit bien que le cinéma, par exemple, dans le policier que Von Sternberg a tourné là-bas, a saisi la particularité de la ville et l'a complètement magnifiée.
Totalement d'accord avec vous. Et pour revenir justement sur le genre documentaire, entre le moment où un projet de documentaire est validé par une production, ou est d'ailleurs même demandé par une production, et le montage final, peut-être sa première dans un festival, combien de temps peut-il s'écouler? Justement, là encore, pour les gens qui voudraient travailler dans ce genre documentaire-là. C'est-à-dire que c'est un travail de longue haleine, même si parfois les documentaires sont d'une durée conventionnelle entre 45 minutes et 90 minutes à peu près en festival, c'est des années parfois de travail, certainement des mois, mais souvent des années.
Pour ce qui me concerne, ça demande quand même beaucoup de temps de préparation, parce qu'il faut revoir tous les films, il faut relire tous les articles, il faut éventuellement aller une première fois sur les lieux, voir un peu là où ça va se passer. C'est beaucoup de préparation avant, parce qu'il y a d'autres types de documentaires que j'ai fait. Par exemple, j'ai fait une histoire de la communauté juive lorraine, où il fallait faire un premier voyage pour rencontrer les gens. C'était moins une question de lieu que de personnes à rencontrer et d'itinéraires à fabriquer. Mais le cinéma est beaucoup plus, quand on doit visiter beaucoup de une époque très large, très longue, revisiter beaucoup de films, lire beaucoup de livres, relire beaucoup d'articles. C'est un gros travail. Voilà, ça demande beaucoup de travail en amont. Plus, après, il faut que l'équipe de production, moi en plus éventuellement, on contacte les intervenants qui seraient disponibles pour parler, par exemple, de Kirk Douglas. Donc nous, on a eu comme principal intervenant, parce que Kirk était déjà trop fatigué et sa famille le protégeait en prévision des fameuses festivités du 100e anniversaire. Mais on a eu une très belle interview de David Bender, avec qui il a écrit ses derniers livres et qui connaissait tout l'itinéraire très, très parfaitement.
Et justement, quand on fait un documentaire, alors on va parler de celui-là, parce que je sais que vous êtes en train de réaliser un autre documentaire, on va y venir tout de suite, mais sur Kirk Douglas, on revient vers des documentaires de référence qui nous ont marqué sur l'histoire du cinéma, des livres, peut-être vous parliez de François Chalet tout à l'heure, vous disiez que vous regardiez des conversations, etc. Est-ce que, dans le même style, vous regardez des documentaires d'autres personnes, non pas pour copier, etc., mais en tout cas pour vous inspirer, ou peut-être pour prendre un certain ton, ou vous démarquer d'un certain ton, peut-être?
Je connais forcément beaucoup de documentaires sur le cinéma, mais j'essaye vraiment de trouver une voie originale pour chacun des documentaires. Par exemple, dans la série des City Movies, les films sur les villes en rapport avec le cinéma, c'était vraiment ce que je crois n'avait pas été fait jusqu'à présent. Comment les images des films continue de hanter les villes, parce que ça a été une telle présence et ça a tellement marqué l'imaginaire des y compris des habitants de la ville, les images de cinéma, que j'ai fait un système de flottaison des images des films sur les images de la ville, qui donne cette impression de pas fantastique, on va pas aller jusque là, mais enfin de choses qui rôdent, qui continuent de rôder encore sur la ville. Et là, ça a été un travail de composition très particulier. Sur Kirk Douglas, j'ai été vers une forme plus entre guillemets classique, parce que j'allais pas faire sur un tel personnage des inventions formelles, ou alors il aurait fallu le faire pour un truc complètement underground. Donc là, il s'agissait d'être honnête avec Kirk Douglas et de raconter simplement sa vie avec les principales étapes, les principaux films, et de revenir à un matériel de base qui rend compte dans le montage de la force du personnage.
Kirk Douglas honoré pour ce 46e festival de Deauville, un festival évidemment particulier, le retour des festivals après la crise sanitaire. Honoré après sa disparition, il a été évidemment avant, une évidence pour vous?
Oui, c'est un des parrains du festival. Et d'ailleurs, quand j'en parle un peu avec les gens qui sont un peu en responsabilité dans le festival, ils le considèrent comme le parrain principal, enfin le parrain américain principal du festival. Donc ça me semble être un juste retour des choses. Et je dis en passant que le speech qu'a fait Michael Douglas en ouverture, qui a été projeté en ouverture du festival, a été tout à fait magnifique. Évidemment, qui mieux que lui pour résumer une personnalité aussi riche.
Tout à fait, Kirk Douglas, qui, au même titre qu'Elizabeth Taylor, a été très important au tout début de Deauville. Elizabeth Taylor, qui grande amie de Kirk Douglas, hein, et qui a été honorée ici en 1985, la dernière fois. Avant de parler de votre prochain projet, si vous deviez conseiller trois documentaires, trois séries documentaires ou trois films documentaires à des jeunes cinéphiles, des moins jeunes cinéphiles, des cinéphiles tout court, quels seraient-ils ?
Oula, la colle. Oui, je ne m'attendais pas à celle-là. Bon, là, par exemple, hier, j'ai vu le documentaire de Greg Munro sur Kubrick, qui est très bien. Là, je vous dis ça de manière très immédiate. Après, j'aime beaucoup les histoires du cinéma de Godard. Ça, de toute façon, on ne peut pas y échapper si on veut vraiment rentrer à la fois dans l'imaginaire du cinéma et dans ce que c'est que de faire un documentaire original. Après, c'est un troisième truc, mais parce que ça me vient en même temps, c'est sur YouTube, vous trouvez tous les entretiens de Hitchcock avec Truffaut, qui ont été filmés, en fait. Et vous pouvez les trouver, je sais pas, il doit y avoir 15 ou 20 épisodes, et ils sont sur YouTube.
Exactement, Hitchcock-Truffaut, qui est un livre de référence, hein, là encore, en conversation entre cinéphiles et cinéastes. Sur quel projet travaillez-vous maintenant ? Je sais que dans le dossier de presse du festival, il est marqué que vous êtes dans la production ou la pré-production d'un autre documentaire.
Ah oui, alors je prépare, mais on attend qu'un peu les frontières, entre guillemets, s'assouplissent pour pouvoir aller aux États-Unis. Un film sur les femmes sur la route dans le cinéma américain, c'est-à-dire... grosso modo, la révolution féministe a redémarré aux États-Unis parce qu'elle a eu une période d'interruption suite à la guerre et à la guerre froide et aussi au macartisme, tout ça étant lié. Donc avec le poids des conservateurs qui bloquaient un peu l'évolution des mœurs américaines. Donc il y a eu, à partir des années 70, à partir de Vanda, le film de Barbara Loden, qui était la femme d'Elia Kazan, toute une série de films où les femmes prenaient la route pour prendre la fuite, pour essayer d'inventer de nouveaux rapports avec les hommes, inventer un nouveau mode de vie, inventer aussi de nouveaux types de personnalités. Évidemment, le film le plus emblématique, c'est Thelma et Louise. Et donc, voilà, on va aller filmer les routes américaines, aller rencontrer quelques scénaristes, comédiennes un peu connues, et réalisatrice aussi contemporaine, parce que cette histoire de femmes sur la route, ça se continue jusqu'à aujourd'hui. Et on va faire un film qui je pense est en rapport avec ce qui se passe du côté de la question féminine aujourd'hui.
Ne pas oublier d'ailleurs que ce sont les femmes qui ont inventé le cinéma à Hollywood. Les premières réalisatrices et productrices au début du siècle étaient des femmes, les pionnières du cinéma, si je ne me trompe pas.
Il y avait Alice Guy.
Qui est
devenu un peu, d'une certaine manière, l'emblème des femmes cinéastes.
Ah, tout à fait. Donc ça, ce sera pour 2022, si ça se tourne.
C'est une question de frontières qui s'ouvre plus ou moins rapidement, mais oui, normalement, et puis parce que j'ai quand même d'autres choses qui viennent derrière, il faut qu'on tourne dans le printemps 2021 au maximum et que le film soit prêt pour la fin de l'année, quoi.
Merci beaucoup, Vera Tal. Je rappelle que donc Kirk Douglas, l'Indompté, c'est sur OCS Go et ça a été très bien reçu par les cinéphiles ici à Deauville. Je vous invite vraiment à regarder ce documentaire et vous intéresser aux autres documentaires, notamment ce documentaire dont vous parliez, que vous avez fait sur les villes dans le cinéma. Merci beaucoup et puis rendez-vous en 2022 peut-être pour les femmes sur la route à Deauville alors.
Merci à vous et puis à bientôt pour le prochain rendez-vous.
Merci beaucoup. Voilà Hubert Attal qui est donc habitué à des séries documentaires. La série documentaire dont il parlait sur le cinéma américain, vous avez pu la découvrir sur Ciné Plus il y a quelques années. Voilà pour cet entretien enregistré donc à l'hôtel Normandie. Avant de découvrir quelques mots du producteur du film Kirk Douglas l'Indompté, disponible sur OCS Go, vous rappelez que vous pouvez réagir à cette émission sur les réseaux sociaux @betaserie @KevinLRB. Le hashtag c'est entourage. On continue tout de suite donc notre émission. Comment produire un film documentaire, une petite parenthèse avec donc Vic de Maillot qui est le producteur de Kirk Douglas, l'Indompté.
Alors, au départ, on a une idée, l'idée de faire un film sur quelqu'un. Après, il faut convaincre la chaîne. Et ça, c'est une des parties les plus compliquées. Une fois qu'on a réussi à convaincre OCS, en l'occurrence, le nouveau challenge, c'est de convaincre la famille Douglas, en tout cas, pas nécessairement Kirk, mais la famille Douglas, de participer au film. Accepter, un, qu'on fasse ce film, de nous donner du matériel, éventuellement de les rencontrer. Donc, c'est la vraie difficulté, c'est ce qui prend un peu de temps, ça, une petite année. Écoutez, vous savez, quand on produit des films, on les produit parce que on se souvient de sa jeunesse. Dans son enfance, on a rêvé de gens et on a eu envie de les rencontrer plus tard. Moi, Kirk Douglas, c'était un acteur mythique du cinéma de mon enfance. Voilà. C'est drôle, mais ceux qui m'ont le plus inspiré, c'est quand même ceux dont l'origine vient de l'enfance. C'est-à-dire des histoires dont on a entendu parler dans l'enfance et à l'âge adulte, on a envie de les raconter. Alors, ça veut dire récemment un film pour France 3 sur l'affaire des vedettes de Cherbourg, parce que je me souvenais très bien quand j'étais petit garçon de ce qu'avait été cette affaire. Ça veut dire aussi des films sur des stars du rock que j'ai pu aimer quand j'étais adolescent. J'aimais le travail d'Andy Warhol. Un jour, j'ai décidé de faire un film sur lui, devenu effectivement le film le plus important sur Warhol. Soit l'idée vient de moi, elle vient d'un réalisateur, mais dans les deux cas, à un moment donné, on s'assoit, on regarde ensemble le projet, on se demande vers quelle chaîne on va pouvoir se tourner. Une fois qu'on a réussi à convaincre une chaîne, là encore, il y a un film sur 20 qui trouve un partenaire télévisuel. À partir de ce moment-là, on va mener à la fois le montage financier et l'organisation de ce film pour avoir les meilleurs intervenants, les meilleures images, les meilleures archives. Et puis voilà, ensuite, on va garantir la bonne fin, qu'on aille bien jusqu'au bout dans le respect de ses partenaires. Alors, d'abord, Hubert Attal et moi, on se connaît depuis une trentaine d'années. Des films, on en a fait beaucoup. On a l'habitude de se rencontrer une à deux fois par semaine, de rêver sur des idées. Pour celui-là, ça s'est passé un petit peu particulièrement. J'avais proposé à OCS de faire un film sur Kirk Douglas, il m'avait dit oui. J'ai appelé Hubert Attal et je lui dis, est-ce que ça t'intéresse de faire ce film sur Kirk Douglas? Je savais qu'il aurait les compétences et les connaissances pour traiter ce sujet. Bien plus difficile à faire qu'un simple portrait d'acteur.
Et un autre documentaire événement qui a été présenté à Deauville, c'est celui de Gregory Monroe autour de Stanley Kubrick. Alors Stanley Kubrick, on a tout vu, tout entendu, tout lu peut-être sur lui jusqu'à ce documentaire, Kubrick par Kubrick, un documentaire inédit en partenariat artistique avec Michel Simon. Michel Simon qui est un des plus grands historiens du cinéma et un des plus grands critiques du cinéma en France, qui a été un ami intime de Stanley Kubrick, un peu comme François Truffaut l'était d'Alfred Hitchcock pour ce formidable livre Truffaut-Hitchcock. Gregory Monroe a pu avoir donc à sa disposition pour le documentaire, beaucoup d'archives audio, des conversations que Michel Simon a eues avec Stanley Kubrick. J'ai donc évoqué avec lui, par téléphone, toujours en duplex de l'hôtel Normandie, la conception de ce documentaire, sa réception extraordinaire ici à Deauville, ses futurs projets et justement comment réaliser un documentaire sur un cinéaste dont tant a été écrit dessus déjà. Gregory Monroe.
Well, I mean, a work of fiction, you have to have conflict. If there isn't a problem in a story, it can almost by definition not be a story.
A good story that you make in a film is a miracle. And, you know, it's very hard to work miracles.
And if Stanley trusts you, if he trusts you, you're all right. If he doesn't, beware.
We did 105 takes on this thing, and take two was perfect.
I've never done more than, say, 15 takes before in my life.
Directing a movie, if you try to do it properly, is not always fun.
Alors, je suis donc très content d'être en duplex du Festival de Deauville avec le réalisateur du documentaire événement sur Stanley Kubrick qui est projeté ici, un documentaire inédit dans sa forme et dans son fond, comme on va le voir immédiatement. Peut-être avant, parler de vos souvenirs de Deauville, ce que représente ce festival pour vous, avec évidemment encore une teneur particulière cette année, puisque c'est le retour des festivals.
Deauville, Deauville, c'est très particulier pour moi. Parce que c'est le premier festival auquel je suis allé tout jeune. Dès 1987, j'ai commencé à venir à Deauville, parce que j'adorais déjà le cinéma, je venais avec ma famille. Et je n'étais plus venu depuis une vingtaine d'années. La dernière fois que je suis venu, je crois que c'était l'édition de 1999, il me semble. Et sinon, je venais toutes les années. Donc, je voyais énormément de films, je croisais énormément de vedettes et je rêvais effectivement un jour de peut-être de revenir pour présenter un film. Donc, pour moi, venir cette année présenter un film, 20 ans plus tard, c'est absolument, absolument magnifique, très émouvant et d'autant plus que Deauville et moi, on partage le même anniversaire, quasiment jour pour jour, quasiment.
Très bien. Et avant de peut-être parler du genre documentaire, rappelez aux gens qui ne connaîtraient pas votre travail que vous avez fait un documentaire particulièrement acclamé par la critique et le public il y a quelques années autour de Louis de Funès. Vous êtes également spécialiste du cinéma américain. Donc pour les plus cinéphiles qui m'écoutent, qu'ils aillent vraiment voir ce documentaire, parce que moi j'ai appris, je pensais tout connaître de Kubrick et j'ai appris énormément de choses justement, puisque vous avez pris un axe inédit pour ce documentaire avec l'aide d'archives et également avec l'aide d'un spécialiste du cinéma qui connaît Kubrick plus que tout et qui a pu même être intime avec lui. Expliquez-nous.
Alors, il s'agit du critique de cinéma Michel Simon.
Un immense critique pour les plus jeunes qui m'écoutent.
Un immense critique qui a écrit notamment dans Positif, qui était quand même un très grand cahier de critique à l'époque. Et Michel Simon a eu la chance d'interviewer Stanley Kubrick pour un ouvrage que Michel Simon voulait publier, début des années 80, 1980 d'ailleurs, qui s'appelle Kubrick, qui est la référence, vraiment l'ouvrage référence. Et en fait, dans cet ouvrage-là, il a retranscrit les quatre interviews qu'il a faites avec Stanley Kubrick entre Orange Mécanique et Full Metal Jacket. Voilà. Donc, il faut savoir que Kubrick redoutait les interviews, n'aimait pas trop parler de ses films, n'aimait pas s'analyser, mais avec Simon, c'est assez rapidement passé. Puis je pense qu'il avait un affect particulier pour les Européens et pour les critiques français. Voilà, parce que on a un amour pour le cinéma, on aime analyser les choses, peut-être un peu trop, on est peut-être un peu trop cérébraux, mais voilà, Kubrick étant cérébral également, voilà, ils se sont noués une amitié une cordialité plus professionnelle, effectivement, soit certes amicale, mais ils n'étaient pas amis, si vous voulez, dans la vie, mais ils s'appelaient de temps en temps, et effectivement, il a pu entretenir une relation pendant des années avec Stanley Kubrick. C'était l'un des rares, je crois que c'est le seul critique vraiment français qui a le plus fréquenté Stanley Kubrick, voire peut-être au monde.
Tout à fait, qui avait sa confiance d'ailleurs, et en ce sens, leur relation me fait beaucoup penser à la relation entre Truffaut et Hitchcock. Et puis d'ailleurs, pour les plus cinéphiles, on pourrait d'ailleurs mettre un parallèle entre ces deux relations, puisque Hitchcock parlait également très très peu aux critiques, aux gens d'ailleurs en général de ses films. Mais c'est vrai que Stanley Kubrick a donné des indices d'appréciation et de compréhension de ses films à Michel Simon comme à personne d'autre, et c'est ce qu'on voit bien dans le documentaire. Justement, pour parler du genre documentaire et de la conception de ce film, que j'invite vraiment tout le monde à voir, puisque c'est même pour les plus cinéphiles, on y apprend beaucoup de choses. Comment s'est passée l'écriture? Comment s'est passée la pré-production? Depuis quand est-ce que vous travaillez dessus? Et avez-vous écrit le film après avoir tourné certaines images? Comment ça s'est passé au niveau du format?
Alors, ce documentaire-là est extrêmement spécifique. Je pense qu'il faut que tout le monde le sache. Il est extrêmement rare de faire des documentaires de cette façon-là. À savoir, vous savez, dans les documentaires, souvent, c'est composé de tournages. Vous interviewez des gens, vous avez des archives. Puis après, vous faites votre montage, vous mettez ce qu'on appelle un commentaire ou une voix off, voilà, pour raconter l'histoire. Ce film-là sur Stanley Kubrick était extrêmement spécifique parce qu'il n'y a eu rien de tout cela. C'est-à-dire que c'est un film à 100% conçu à base d'archives déjà existantes, dans des archives audio en plus, c'est-à-dire des interviews de Michel Simon qu'il a audiotépé Stanley Kubrick, mais également de quelques archives que l'on voit d'interviews de certains de ses collaborateurs, de certains de ses acteurs, mais ce sont des archives anciennes. Donc j'ai tout écrit à partir d'archives qui étaient déjà là. Et donc, c'est extrêmement rare. C'est un travail de longue haleine. Ça a été à peu près plus de 2 ans et demi de production, ce qui est extrêmement rare aussi pour un film. Ah, mais oui. Kubrick, c'est la rareté, si vous voulez. C'est le trésor. Donc, j'étais prêt à faire ça. J'étais passionné. Mais c'est vrai.
Et puis, l'exigence des spectateurs ciblés pour ce documentaire aussi.
Oui, alors, vous savez, on ne peut rien faire contre les gens qui sont complètement fans et férus de Kubrick.
Ah, oui. Certains
fanatiques, voilà, qui vont vous dire ah, mais on n'apprend rien, machin. Attendez, excusez-moi, c'est une adaptation de l'ouvrage de Michel Simon. Donc, vous ne pouvez pas dire ça, en fait. Sinon, vous allez voir un film qui est adapté d'un livre. Donc il ne faut pas dire ça. C'est le seul film dans lequel vous avez le témoignage direct de Stanley Kubrick, le seul film auquel vous, à travers lequel vous vous sentez vraiment proche de Kubrick, et le seul film dans lequel vous entendez vraiment son point de vue. pas seulement sur, on va dire, analytique autour de ses films, mais également son point de vue sur le monde, sur la vision de l'homme. Et je crois que c'est très intéressant de voir ça. Et ce qui est très intéressant, c'est aussi de sentir que cet homme-là était évidemment cultivé, passionnant, mais qu'il était très conscient du monde dans lequel il vivait. Et ça, c'est, je trouve que c'est assez admirable. Je trouve ça assez puissant.
Oui, tout à fait. Et c'est justement bien ce qu'on voit dans le documentaire. On sent également votre passion derrière dans le documentaire. C'est avec passion et c'est pas un film de commande. Et ça se voit. Avez-vous déjà eu des retours, justement, alors peut-être pas des fans de Kubrick, mais peut-être des cinéphiles ou des gens qui ont découvert ce documentaire sans vraiment savoir ce qu'ils allaient voir et qui vous ont ensuite fait des retours?
Ah oui, bien sûr, j'ai eu les deux. Hein. J'ai eu les retours de personnes qui connaissent très bien Kubrick et des retours de personnes qui ne connaissent pas Kubrick. Et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que les deux ont été effectivement totalement emballés par le film. Alors, c'est un film ciné. Hein. C'est vrai qu'il est passé à la télé, etc. Mais c'est franchement un film que j'ai conçu pour le grand écran. Hein, parce que,
et c'est pour ça qu'à Deauville, hein, c'était très important qu'il soit montré à Deauville.
Absolument. Oui. Bah, écoutez, moi, j'en suis
c'était magique. Servi.
Ah, c'était vraiment magique pour moi, je suis comme un enfant. Ouais. Enfin, je suis toujours là en vous en parlant, je garderai ça en souvenir toute ma vie. C'était absolument formidable. Mais c'est vrai que ce film ne laisse absolument pas indifférent. C'est un documentaire de création. Voilà, on peut vraiment l'appeler comme ça. C'est vraiment, quand on connaît le documentaire ou quand on a l'habitude de regarder plein de documentaires, le Kubrick par Kubrick est vraiment un documentaire de création. C'est tant dans le fond, dans la façon de le faire dans le fond, que dans la forme. Effectivement, vous me demandiez. Comment est-ce que j'avais conçu ce film? Effectivement, je l'ai écrit pendant très longtemps, mais à base effectivement des audios et des archives que j'avais, ça a mis des mois et des mois. Mais également, on a tourné effectivement certaines séquences pour pouvoir faire des points de liaison, mais on n'a pas tourné d'interview. On a reconstitué. Alors pour ceux qui l'ont pas vu, mais même pour ceux qui vont le voir, ce sera pas une surprise. Ils vont tout de suite reconnaître la chambre de 2001 pour planter le décor des interviews de Michel Simon à l'intérieur de ça. Et voilà, tout converge vers cette chambre mystérieuse.
Voilà, pour les plus jeunes qui nous écoutent, on parle bien sûr de 2001, l'Odyssée de l'espace, donc l'un des films très importants de Stanley Kubrick. Et d'ailleurs, alors deux questions. Peut-être tout d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien Kubrick, quel film conseilleriez-vous en première approche de ce cinéaste? Et après, j'irai plus avant dans une question pour les plus cinéphiles. Mais pour les plus jeunes, à l'écoute de notre émission, Entourage, beaucoup de gens d'ailleurs qui sont plus habitués aux séries qu'aux films, mais pour moi, les séries documentaires sont aussi très importantes, ça je voulais absolument parler de ce documentaire-là. Quel film conseilleriez-vous justement aux plus jeunes pour découvrir Stanley Kubrick?
Alors, les plus jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les plus jeunes de l'époque à laquelle moi j'ai découvert les films de Kubrick, donc ça a un peu changé. Les plus jeunes.
Maintenant, ils les voient remasterisés aussi, donc c'est autre chose aussi. Ils ont une nouvelle approche.
Ouais, mais ça dépend qu'est-ce que vous appelez les plus jeunes.
Alors, disons quand on a entre 15 et 30 ans et qu'on veut découvrir pour la première fois Kubrick. Voilà.
Ah oui, non, d'accord. Alors, quand on a entre 15 et 30 ans, franchement, moi je. Écoutez, moi le premier film que j'ai vu de Kubrick, c'était Barry Lyndon.
Ça m'avait.
Voilà, j'étais très jeune, hein, j'avais 10 ans, donc j'étais. Voilà. Donc. Moi, c'est un film que j'aime.
On comprend pas toutes les nuances à 10 ans, mais.
On comprend pas toutes les nuances à 10 ans, mais.
Mais quand même.
Quoique aujourd'hui, je pense qu'avec tout ce qu'on voit, avec tout ce que les jeunes voient, notamment sur les plateformes ou à la télé ou sur leur iPhone ou que sais-je, franchement, Barry Lyndon, c'est totalement abordable. Après, il faut savoir s'immerger. Vous savez, Kubrick, c'est des films de cinéma, c'est compliqué de se dire. Il faudrait que les gens puissent aller le voir au cinéma. Moi, je conseillerais. Alors, c'est vrai que j'aime. Voilà, Barry Lyndon, pour moi, c'est l'un de mes films de chevet. Il y a 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est vrai qu'il n'est pas évident comme ça d'approche, mais il faut s'immerger. Sinon, vous avez aussi Dr. Strangelove. Moi, je conseillerais peut-être de les regarder dans l'ordre. C'est-à-dire que peut-être commencer. Alors, après, l'un de ses premiers films, l'un de ses premiers films bons, c'est L'Ultime Razzia. qui est en noir et blanc, un film de braquage, etc. C'est très intéressant, mais c'est intéressant de voir la progression des films de Kubrick. C'est intéressant de voir Spartacus aussi, parce qu'après Spartacus, avec Dr. Strangelove, le professeur Folamour, autour de la guerre froide, c'est hyper intéressant de voir comment il a évolué et comment finalement, après Spartacus, il y a eu un volte-face et cet homme a pu maîtriser sa carrière exactement comme il le voulait, faire les films comme il le voulait, avec les gens qu'il voulait, où il le voulait. C'est extrêmement rare. Donc, je dirais peut-être le Docteur Folamour. C'est peut-être son premier film un peu assez, on va dire, kubrickien. Voilà. Et après, sans doute, Spartacus et Barry Lyndon. Je trouve que c'est intéressant. En fait, n'en citer qu'un seul, c'est compliqué avec Kubrick parce que tous ces films sont entièrement différents. Donc, après, ce sont tous des films vraiment de cinéma. Si vous pouvez les voir, parfois il y a des rétrospectives, hein. Mais.
Oui, voilà. Souvent. Souvent. Ouais, ouais, et ouais. Du coup, vous citiez Spartacus, hein, j'invite dans cette même émission où j'ai le plaisir de vous recevoir, Hubert Attal, réalisateur du documentaire Cœur de glace, La Dentée, nous parlait évidemment aussi de Spartacus, hein, Cœur de glace, évidemment, qui est l'icône et l'emblème de ce 46e festival du film américain de Deauville. Et pour les plus cinéphiles, quel film conseilleriez-vous de regarder? Peut-être un film méconnu de Kubrick ou alors un film qui demande plusieurs lectures, plusieurs visionnages pour en saisir toutes les nuances. Et Dieu sait que Kubrick, tout comme Hitchcock, il faut plusieurs visionnages pour tout comprendre. Quel film conseilleriez-vous peut-être aux étudiants de cinéma ou plus cinéphiles de redécouvrir ou d'aller plus avant dans l'analyse de films?
Ah bah écoutez, forcément, il y a 2001, l'Odyssée de l'espace. Je pense que c'est un film qui questionne énormément et qui est toujours d'actualité. Il a toujours été d'actualité d'année en année. Je pense que c'est son film qui a le plus questionné. Je crois que c'est son film le plus, sans doute, il me semble le plus abouti. Voilà, enfin, je m'avance un peu en disant ça, mais il me semble. Et peut-être que pour les plus cinéphiles, découvrir ses tout premiers films, mais alors pas, je ne parle pas de Fear and Desire, je parle de ses documentaires. Parce que Kubrick a fait 3 documentaires, me semble. Il y a notamment Day of the Fight, qui est autour d'un boxeur célèbre dans les années 40. C'est très intéressant de voir ça, parce que là, vous voyez vraiment l'œil de Kubrick déjà dans ses films, et notamment dans Day of the Fight, qui est un film en noir et blanc, qui est narré très étonnamment, un peu à la façon, avec une voix off, qui pourrait faire penser à Barry Lyndon. Donc c'est très étonnant de voir ça. Et c'est filmé comme si c'était un film de fiction, alors que c'est un documentaire. Donc les cadres, tout était archi soigné, et pourtant il l'a fait extrêmement rapidement, il l'a fait tout seul, il n'avait pas de sous, il l'a fait avec une caméra. Enfin, c'est quand même assez admirable. Moi, je trouve que c'est un exemple. Je trouve que ce film-là en dit beaucoup aussi sur Kubrick ensuite. Mais je crois qu'il faut... Les cinéphiles... S'ils ne connaissent pas ses premiers documentaires, je pense que c'est intéressant, et particulièrement celui-ci. Et après, effectivement, d'aller voir 2001 et également Eyes Wide Shut, parce que c'est vrai que c'est un film qui est, parce que c'est un film en fait qu'on cite moins et qui est peut-être moins aimé parce qu'il est plus récent, parce que Tom Cruise, parce que Nicole Kidman, mais tout de même, je pense que c'est un film extrêmement intéressant et majeur, comme évidemment la plupart des films de Kubrick. Mais c'est vrai que si les gens peuvent voir 2001, Shining et Eyes Wide Shut, c'est très étonnant. Voilà. Je pense qu'en termes de cinématographique, de cinématographie pure, 2001. Alors évidemment, on peut rajouter Barry Lyndon pour la photo. Évidemment, il y a plein de choses à dire, mais c'est vrai que voilà, entre 2001, Shining et Eyes Wide Shut, vous avez et Day of the Fight, il y a quelque chose de très intéressant. Voilà, et il y a vraiment des points de convergence.
Et puisque vous parliez justement des documentaires de Stanley Kubrick, la transition est toute trouvée pour cette émission sur le genre de documentaire. Quels sont les documentaires qui sont pour vous fondateurs, les documentaires autour du cinéma, peut-être autour des séries, peut-être autour de l'histoire du cinéma, qui pour vous vont vous donner envie de faire des documentaires, qui vous ont inspiré ou sur lesquels vous revenez encore maintenant quand vous êtes en pré-production d'un documentaire justement?
Vous savez, ça dépend parce que j'en ai vu tellement, je me souviens même plus à partir de quel âge j'ai vu des documentaires. Moi, je me souviens surtout des documentaires récents. Je sais qu'il y a un documentaire de Cécilia... Non, pardon, c'est pas Cécilia Peck, excusez-moi. Je crois que c'est un documentaire sur les mineurs aux États-Unis dans les années, je crois que c'est dans les années 70. C'est un documentaire absolument admirable. Excusez-moi, j'ai oublié, c'est une réalisatrice, une très grande réalisatrice, mais qui a un magnifique film. Il y en a un qui me vient aussi à l'esprit, qui est L'Amérique insolite de François Reichenbach, qui est un chef-d'œuvre absolu. Hein, c'est dans les années 60. C'est l'Amérique post-Seconde Guerre mondiale, filmé de façon... C'est brillant. C'est brillant. Vous n'avez pas du tout l'impression en fait, que c'est filmé comme un documentaire. L'image est une image 35 mm. Vous êtes emballé par ça. C'est sur une musique de Michel Legrand, en plus, qui est un tout jeune compositeur à l'époque. Et ce documentaire-là est absolument magnifique. Il est magnifique parce que ça vous fait montrer une Amérique effectivement qui n'est qui n'est plus du tout la même, et un monde même qui n'est plus du tout le même. Voilà, le rêve américain, voilà, le pays où tout est possible, effectivement, on en est un peu loin. C'est un film merveilleux. Vraiment, je conseille à tout le monde ce film. Donc, je répète, c'est L'Américain solide de François Reichenbach. Il faut pouvoir le trouver. On le trouve encore. C'est un documentaire assez rare. Mais je trouve ça extrêmement brillant. Voilà. Évidemment, il y a le film de Raoul Peck, I'm Not Your Negro.
Ah, extraordinaire. Et voilà, bien sûr, on en a beaucoup parlé ces derniers mois.
Voilà, on en a beaucoup parlé. Je ne suis pas très original en disant ça, mais c'est vrai.
Non, mais c'est très bien qu'on en parle. Vous avez totalement raison.
C'est vrai que c'est un film nécessaire, voire indispensable. Terrible parce que toujours d'actualité, mais je trouve assez humble aussi la façon dont il est fait. C'est très intéressant, il y a aucun artifice, c'est fait très simplement, si vous voulez. Le montage est très voilà, c'est cut, c'est archives l'une après l'autre, il n'y a pas d'effet de style, et pourtant on est emporté par l'émotion, on est emporté par les témoignages et par les archives. S'il y a certains auditeurs qui n'ont pas vu ce film, il faut s'empresser de le voir. Je crois que vous pouvez le voir sur certaines plateformes, mais il me semble aussi.
Ouais, exactement. Et puisqu'on est dans les recommandations, etc., je ne peux que conseiller également aux cinéphiles qui nous écoutent de regarder vos documentaires sur James Stewart, que j'ai beaucoup apprécié, mais j'ai beaucoup apprécié celui sur Robert Mitchum, voilà, qui est un acteur immense et surtout un artiste engagé, un petit peu comme Kirk Douglas, justement. Ce sont deux artistes qui me font beaucoup penser l'un à l'autre. Merci beaucoup, Grégory Mondreau, d'avoir été avec nous dans Entourage.
Merci.
Kubrick, Bayer par Kubrick, un documentaire événement qui a été projeté donc cette semaine au 46e Festival du film américain de Deauville. Merci de m'avoir accordé un petit temps et j'invite vraiment les gens à découvrir ce film en salle. Merci beaucoup, Grégory Mondreau. Merci à vous.
Merci, à bientôt.
Voilà, Grégory Mondreau, vous le voyez, un passionné et passionnant pour le documentaire donc Kubrick by Kubrick. Et à présent, nous allons parler à une cinéaste, Daphne Bywire, une grande habituée également du genre documentaire ou des séries documentaires, avec Sébastien Crouse, son producteur affilié, puisqu'ils travaillent ensemble depuis déjà plusieurs années, bien que Daphne Bywire soit une très jeune cinéaste. Ils ont projeté cette semaine à Cannes le documentaire Deauville et le rêve américain, un documentaire qui va en profondeur sur l'histoire du festival, un documentaire qui a été réalisé avec l'aide de nombreux acteurs américains, Michael Douglas en premier, qui a une grande histoire avec Deauville et qui donne une immense conversation dans ce documentaire passionnant. On y retrouve également beaucoup de cinéastes qu'on a croisés à Deauville ces dernières années. Bon, alors évidemment, Claude Lelouch. Et puis on y retrouve également l'ancienne maire de Deauville qui a été très importante dans le festival dans les années 70 et 80. Avec eux, j'ai donc parlé de la difficulté de tourner un documentaire entre l'Europe et les États-Unis, avec énormément d'intervenants donc américains. Comment convaincre les financiers de produire un tel documentaire autour de l'histoire d'un festival, un documentaire comme cela n'avait jamais été fait avant. Donc comment créer une demande, comment montrer qu'il y a une demande plutôt. J'ai pu évoquer tous ces points avec Daphne Bywire et Sébastien Crouse, son producteur, toujours dans le hall de l'hôtel Normandie. Et avec eux, nous évoquons également le genre documentaire, les documentaires références, l'écriture d'un documentaire. Voilà, Deauville et le rêve américain, ce sera à découvrir dans quelques mois et toujours projeté à Deauville jusqu'à la fin de ce festival dimanche.
C'est une longue histoire.
The festival was wonderful, but Regine had her disco club going on in Deauville, and it was very social and really a celebration that only the way that the French can do.
Il y avait des soirées extraordinaires pour soutenir tel ou tel film. Il y a eu des combats de cow-boys et d'indiens dans les rues.
On s'est retrouvés pratiquement tous les ans chez Kirk Douglas, qui prenait son téléphone. Il appelait Mitchum. On est avec Lionel Chouchan. Rien que ça, déjà, c'était extraordinaire.
No, I'm not drunk, Mr. Bowden. Maybe a little excited.
It was insane. They put on this crazy music and you have to like run down the stairs and it's like rocky. It's like bam ba da bam ba da, and you go down to the stage and you wave. I'll never forget it. It was crazy.
Je pense que ce qui a fait le rayonnement de l'Amérique dans le monde, c'est son cinéma.
C'était ses bagnoles, ses blousons, sa musique. C'est-à-dire qu'elle savait exporter sa culture. Et aujourd'hui, si elle nous exporte Trump, bah c'est sûr qu'on a la trouille, hein.
vous regardez un film américain, vous pouvez savoir quel président est élu à ce moment-là, ce qui est assez extraordinaire. C'est vraiment le cinéma de propagande par excellence.
En fait, le cinéma américain, c'est quand même, je crois, à peu près 800 films par an, dont 700 indépendants.
Originally, it was only big studio movies. And I think the festival made a very good decision by mixing it up with more independent movies.
Les studios faisaient la pluie et le beau temps, donc il a fallu qu'on se tourne vers les indépendants.
C'est ce cinéma-là qui est de plus en plus en danger aujourd'hui.
En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je crois au cinéma de plus en plus. De plus en plus, et que c'est un film, un jour, qui sera tellement beau, tellement réussi, qu'en 2 heures, il pourra changer peut-être l'histoire du monde.
Alors, je suis ravi d'être avec vous ici, en cet hôtel Normandie, hôtel mythique du cinéma français et de Deauville, un petit peu comme les vôtres documentaires. Ça, je trouvais très bien de faire la conversation ici. Félicitations, parce que pour les cinéphiles, c'est du pain béni. Alors, avant d'aller plus avant dans le genre documentaire, but de cette émission aujourd'hui, peut-être nous parler de la genèse de ce documentaire. Qui a eu l'idée, pourquoi, et puis comment vous avez travaillé dessus au tout début dans la pré-production?
Tout à fait. Alors, moi, je suis comédienne à la base, enfant-acteur. J'ai fait mes débuts comme ça dans le cinéma. Et donc, j'habitais sur Paris. Donc, comme beaucoup de Parisiens, nous venions souvent à Deauville le week-end. Et c'est là qu'est né mon amour, en fait, pour ce festival, que je fréquentais, du coup, depuis toute jeune. Et au fur et à mesure des années, c'est à peu près en 2015 que je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, mais il y a beaucoup de documentaires sur Cannes, sur le Festival de Cannes. Et quand on cherche des informations sur celui de Deauville, déjà on en trouve très peu. Il y avait très peu d'informations, très peu d'histoires autour de ce festival. Et alors que pourtant, en termes de cinéma américain indépendant, c'est vraiment la référence en France. C'est vraiment le festival où on va pouvoir voir des films américains indépendants, où l'Amérique est mise à l'honneur, on va dire. Et donc, je me suis dit, mais ce serait intéressant d'avoir un documentaire qui retrace un peu l'histoire, les prémices de comment est né cet événement. Et petit à petit, en réfléchissant, en discutant avec Sébastien, du coup, qui s'occupait de la production du documentaire, il était apparu que l'angle le plus intéressant, ce serait de traiter un peu justement de ce fameux cinéma indépendant, au final, d'avoir un peu ce documentaire en deux parties. La première qui raconte vraiment la genèse du festival, avec les premières années, comment André Halimi, qui au final était un cinéaste et cinéphile, a eu cette idée de se lancer dans l'aventure, jusqu'à ce changement qui a été fait avec l'introduction des films en compétition, d'une compétition très axée films indépendants américains. Et de là, du coup, de rencontrer tous ces grands cinéastes.
On va en parler de quelques instants. Hein. Vous avez pu rencontrer beaucoup de cinéastes qui font Deauville et qui ont fait Deauville, d'ailleurs. Ouais. Claude Lelouch, Michael Douglas, on va en parler dans quelques minutes. Peut-être avant, comment s'est passée la pré-production, justement? Est-ce que vous aviez déjà travaillé ensemble avant? Comment est-ce qu'on est convaincu par une idée comme ça? Pourquoi on l'est, d'ailleurs, convaincu par une idée comme ça? Et puis comment on travaille ensemble entre producteurs et autrices de ce documentaire?
Donc nous, effectivement, on a une relation assez particulière car on travaille depuis longtemps ensemble. Donc Daphné n'a plus trop à me convaincre avec ses idées généralement. Disons que je sais que quand elle vient avec quelque chose, généralement, il y a une très bonne idée derrière. Et même si je suis pas convaincu au départ, ce qui n'était pas le cas ici. Ici, j'étais convaincu tout de suite. Mais à chaque fois, en travaillant et en développant un peu l'idée, elle construit vraiment quelque chose qui est évidemment intéressant, et là c'est le cas, et la preuve, si on est aussi aujourd'hui ici et qu'on a la chance de le présenter à Deauville, c'est parce que à la fois son travail est qualitatif et son idée était formidable. Je suis assez convaincu aussi que le festival est une grande fenêtre sur l'Europe pour le cinéma américain, et le cinéma américain est lui-même un reflet de la société américaine, donc du coup c'est normal qu'il attire ce festival. C'est normal qu'on soit à la fois fasciné et intrigué, et qu'on ait envie d'en savoir un petit peu plus à travers les films et à travers les gens qui viennent aussi, les stars qui sont venues, etc. Il y a ce côté à la fois glamour et à la fois social qu'on retrouve dans le film. Je trouve que le film ressemble très fort au festival par cette dualité, justement, par le côté paillettes et le côté plus cinéma indépendant et un peu plus pointu et très cinéphile aussi. Et donc le documentaire, il est comme ça aussi, il est accessible et en même temps cinéphile, il ressemble au festival, et ça j'aime bien.
Et vous avez raison, effectivement, il y a peu de documentaires, voire pas de documentaires autour du festival de Deauville, et il y en a autour des grands établissements cinéma de Deauville, le Normandie notamment, etc., mais il n'y a pas de documentaires sur le festival, d'où l'importance. Et au niveau du travail de l'écriture, puisque du coup on voit beaucoup d'intervenants dans le film, après votre narration évidemment les prend en compte, l'écriture s'est-elle faite après les conversations avec les intervenants, ou aviez-vous vos axes avant d'écriture?
Alors moi, je n'aime pas travailler en écrivant beaucoup avant. J'aime le fait de me laisser de la surprise, de laisser quelque chose de très spontané. J'ai essayé un peu toutes les techniques selon les films sur lesquels je travaillais. Et c'est vrai que très souvent, quand on rencontre les gens avant, qu'on discute avec eux, au moment où on enclenche la caméra, on perd ce naturel, on perd ce côté émouvant que peuvent avoir certaines anecdotes. C'est pour ça que je n'aime pas... J'aime bien préparer mes questions, bien me documenter en amont, mais pas trop écrire, de manière à laisser une grande liberté aux intervenants, de manière à les orienter parfois un petit peu dans la discussion, mais en ayant toujours du coup cette liberté et cette approche qui me permet en fait d'écrire le film vraiment au moment du montage. Donc je vais échanger avec les intervenants, parfois ce sont des rencontres qui durent 2 heures où on discute, et c'est après, au moment où j'écoute mes interviews, où je les transcris manuellement, que je me dis ben voilà, c'est ça doit être dans le documentaire, ça aussi, et que petit à petit le film en fait se construit et s'écrit après avoir rencontré les intervenants, et je trouve que c'est une manière de travailler qui permet d'avoir le plus de naturel et de pas se couper ou se fermer, je dirais, à une certaine à certains angles que peuvent prendre le documentaire et qui ne sont pas prévus à l'avance, qui peuvent être complètement inattendus.
Oui, c'est ce qui se sent d'ailleurs. Il y a une grande liberté et spontanéité dans le documentaire. On sent vraiment que voilà, vous mettez là, ce sont les intervenants en premier, avant, et ça, c'est une de la force du documentaire. Et dans la production, comment est-ce que justement on aiguille tout ça? Est-ce qu'on donne son point de vue après? Comment vous avez travaillé? Est-ce que vous avez suivi tout le processus du documentaire? Quel a été votre rôle justement dans la conception et l'édition du documentaire?
Là encore, notre manière de travailler avec Daphné est assez particulière, dans la mesure où je suis un producteur qui m'investit très fort dans les projets, notamment ceux de Daphné, parce que je suis aussi derrière la caméra. Donc évidemment, la relation qu'on a est particulière par rapport à celle d'un producteur qui serait juste à l'autre bout du fil, on va dire, sans minimiser.
Vous êtes derrière la caméra, c'est-à-dire que vous faites l'image?
Oui, c'est ça. Ouais.
D'accord, très bien.
Oui, c'est ça. Et... Donc du coup, j'observe plus de l'extérieur le film tout au long de sa construction. Je sais comment Daphné fonctionne sur les interviews. Je sais qu'elle est très forte pour ça. C'est vraiment sa spécialité. J'ai une de ses spécialités et une de ses grandes forces, c'est de savoir mener des interviews justement pour avoir cette spontanéité dont on parlait tout à l'heure, et cet état très humain en fait. C'est pas forcément simple et ça commence jamais comme ça. Une interview, c'est toujours très bon. Voilà, on sait pas trop. Faut prendre ses marques. Des fois, on n'a pas beaucoup de temps, parce que des fois, autant on a 2 heures, autant des fois on a 15 minutes.
C'est vrai que ça ressemble plus à des. C'est pour ça que j'étais sensible à votre documentaire, parce que c'est un peu ce que j'essaye de faire dans toi. Ce sont plus des conversations que des interviews.
Exactement.
Le mot interview est quelque peu galvaudé. C'est questions-réponses parfois par des journalistes cinéma qui en fait ne sont pas vraiment journalistes, c'est aucune culture cinématographique. Et vous, ce sont vraiment des conversations. Et c'est pour ça que j'invite vraiment mes auditeurs à regarder ce documentaire, vraiment. Parlons des intervenants tout de même, parce que c'est une des forces du documentaire. Michael Douglas, que nous avons vu ici présenter la cérémonie d'ouverture, puisque son père est à l'honneur, Kirk Douglas. Claude Lelouch également. Alors, comment est-ce que ça a été facile de convaincre ces intervenants-là, et quelle est la discussion ou la conversation plutôt qui vous a le plus, je ne vais pas dire bouleversé, mais le plus inspiré pendant tout ce travail de tournage?
Alors, je dirais qu'ils n'ont pas été trop difficiles à convaincre, dans la mesure où Michael Douglas a une grande histoire avec le Festival de Deauville, qui commence avec son père. Son père qui a été très présent dès les premières années du festival et qui a aidé le festival à avoir une visibilité à l'international. Il allait jusqu'à téléphoner à des amis acteurs en leur disant « il faut vraiment que vous alliez à Deauville, vous allez voir, c'est super ». Donc, depuis toujours, je dirais, l'histoire de Michael à Deauville, en tout cas, a une grande importance. Et même pour lui, c'est ici qu'il a rencontré sa femme. Il y a beaucoup de souvenirs. Il y a une partie très émotionnelle par rapport à Deauville.
Voilà, sa femme, Catherine Zeta-Jones, qu'il a rencontrée en 99, puisqu'ils avaient des films en compétition également.
Hein, tout à fait, voilà. Il venait présenter Perfect Murder, et elle venait avec Zorro, du coup. Et c'est à ce moment-là qu'a eu lieu la rencontre. Et Claude Lelouch, évidemment, qui est un inconditionnel de Deauville qu'on ne pouvait pas ne pas avoir dans le documentaire.
Nous sommes en Normandie, où il a d'ailleurs filmé deux films ici, Un homme et une femme et sa suite il y a 2 ans.
Tout à fait. Et donc, ce sont des rencontres toujours merveilleuses. Après, je dirais que, quelle que soit la rencontre, elles ont quelque chose de... Les rencontres sont souvent magiques avec les intervenants. Je pense notamment à Julie et Clara Kupperberg, qui sont fascinantes parce
que... Alors, faut expliquer, ce sont deux documentaristes qui travaillent beaucoup d'ailleurs avec OCS et qui font beaucoup de documentaires autour de grandes actrices, de grands acteurs. Je pense notamment à ce formidable documentaire qu'ils avaient fait autour... évidemment, j'ai oublié le nom, autour de l'héroïne du film Péché mortel.
Jane Tierney.
Voilà, une star oubliée.
Ouais, oui, c'est un très bon documentaire. Et tout à fait. Et puis, c'est elles qui ont fait le documentaire Et la femme créée à Hollywood aussi, où elles reprennent un peu l'histoire de ces fans, de ces femmes pionnières qui étaient là au tout début d'Hollywood.
Qui ont inventé Hollywood.
Qui ont inventé Hollywood, qui ont créé Hollywood et qui étaient, dès les prémices, en fait, présentes et qu'on a complètement... oublié en fait dans l'histoire. Quand on fait une école de cinéma, on n'entend pas du tout parler de ces femmes, et donc elles ont tout un travail, je dirais, d'historienne et de documentariste qui est absolument passionnant. Et c'est vrai qu'une rencontre avec elle, par exemple, c'est très enrichissant, c'est magnifique. Dans un autre registre, je pense à Madame Dornano, ancienne maire de Deauville, qui a connu vraiment les prémices du festival.
Toute la grande période, Elizabeth Taylor, etc.
C'est ça, voilà. Et qui raconte des anecdotes absolument incroyables, qui est une conteuse magnifique, parce qu'elle raconte des histoires avec... avec passion, et on sent que voilà qu'il y a une vraie une manière de raconter en fait qui est peu présente, qu'on rencontre peu en fait de manière générale quand on discute avec les gens. Et elle a une manière de conter des histoires vraiment, et ça, ce sont des rencontres inoubliables. Forcément, quand on rencontre Michael Douglas et qu'on a la possibilité d'échanger sur le cinéma indépendant avec lui pendant une demi-heure ou 45 minutes, c'est pareil, c'est aussi c'est incroyable.
Je dois avouer avoir été d'une jalousie, mais d'une jalousie très saine en voyant le documentaire. J'aurais beaucoup aimé l'avoir, mais j'ai trouvé la discussion passionnante, donc elle était très bien faite, donc jalousie très saine, mais effectivement ça doit être du pain béni. Et ensuite, pour peut-être conclure cette discussion pour les plus cinéphiles de mes auditeurs ou les cinéastes en herbe, peut-être nous parler du challenge le plus important quand on fait quand on veut faire ce genre de documentaire, une difficulté peut-être, ou techniquement, ou dans l'écriture, et ensuite nous parler peut-être de documentaires qui vous ont inspiré ou sur lesquels vous êtes peut-être revenu dans l'écriture de ce documentaire-là.
Alors, je dirais que une des choses sur lesquelles on tient très fort avec Sébastien, c'est au fait d'être indépendant. C'est-à-dire qu'au sein de la production, on a tout le matériel qu'il faut pour pouvoir capter nos interviews nous-mêmes, ce qui nous permet d'être très mobile, très efficace aussi, parce que il est déjà arrivé qu'on arrive sur les lieux d'une interview, qu'on ait fait appel à quelqu'un d'extérieur pour venir nous assister avec du matériel, que la personne ne soit pas présente. Donc, on peut pas dire à Michael Douglas ou à Claude Lelouch « Ah, ben, on va pas pouvoir faire l'interview parce que la personne n'est pas venue. » Donc, du coup, ça, c'est vraiment quelque chose auquel on tient au niveau de notre manière de travailler. C'est le fait d'avoir vraiment tout le matériel avec nous, de voyager toujours avec tout ce qu'il faut pour pouvoir filmer où on veut, quand on veut, un petit peu. Après, au niveau des challenges sur ce film, ils ont plus été, je dirais, en termes de production.
D'accord.
Qu'autre chose. C'est-à-dire que, bien que le film rende hommage au festival et porte un regard sur la création de ce festival, le but, c'était pas de faire une pub, entre guillemets, pour le festival. Surtout qu'il y a toute cette partie sur le cinéma indépendant qui domine
cinéma qui indépendant domine, qui est surtout présent depuis que Bruno Bard a pris la direction de la programmation.
Tout à fait. Tout à fait. Et ses rencontres avec les cinéastes comme Ira Sachs, comme Claude Lelouch, fait une grosse partie du film aussi. Donc c'est là aussi où je pense que les difficultés ont résidé. Et en termes d'inspiration, je dirais que c'est un film qui m'a beaucoup inspirée au niveau de son énergie, je dirais que ce serait 78-52, avec le fait qu'il y ait quand même beaucoup d'intervenants, qu'il y ait, et puis un peu ce regard comme ça qui crée l'histoire petit à petit au niveau de sa narration, je dirais, de la manière dont c'est fait. On a eu la chance aussi de voir le très beau documentaire cette année sur l'exorciste, voilà, qui où on reconnaît certaines choses.
Du même réalisateur.
Ouais. Ouais. Mm.
Peut-être. Et Sébastien, peut-être un challenge dans la production de ce documentaire.
Oui, bah nécessairement. Je suis producteur, donc je vais parler d'argent. oui, la grande difficulté, ça a été de faire comprendre à nos partenaires que ce n'était pas une publicité ou un film institutionnel sur le Festival de Deauville, mais un vrai documentaire de création avec un vrai regard d'auteur. Même si on racontait une belle histoire et que l'idée c'était pas de faire de l'investigation ou de découvrir les secrets ou les vices cachés du festival, c'était pas du tout la démarche. Il y a une forme d'hommage, comme disait Daphné, mais il y avait aussi cette volonté de faire un film qui ressemblait au festival dans sa globalité. Donc ce qu'on peut aimer, ce qu'on peut moins aimer, mais encore une fois en étant loin de l'investigation et en étant plus sur le côté historique. Donc effectivement,
qui ressemble au festival, qui ressemble au festivalier. C'est un film qu'attendent les festivaliers. Moi, c'est le genre de film sur Deauville que j'attendais, par exemple. Donc c'est un film aussi à destination des cinéphiles, il faut vraiment le dire.
Et j'ai envie de rajouter ça aussi, c'est-à-dire que c'est un documentaire qui reflète l'Amérique. Comme tu le disais tout à l'heure, très bien, avec le fait que le film ressemblait au festival, le film ressemble aussi au cinéma américain. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les blockbusters et d'un autre côté les petits films indépendants, comme dit très bien Stéphane Brisé, qui sont faits avec l'argent de la grand-mère. Et c'est vrai que cette scission, elle existe bel et bien aux États-Unis, et en même temps, ce sont des cinémas complémentaires. On ne peut pas imaginer l'un sans l'autre.
C'est ce qu'a dit Thierry Frémaux d'ailleurs en ouverture de ce festival de Deauville. Il a dit quand le cinéma français reste dans ces petits scénarios parisiens et le cinéma américain dans des blockbusters convenus comme Marvel, c'est que le cinéma va mal, et on voit avec la sélection de Deauville 2020 que ce n'est pas le cas. Je trouvais cette citation très belle. Et pardon, je vous ai coupé sur du coup peut-être les documentaires qui vous ont inspiré, Sébastien, dans la production de ce film, ou en règle générale d'ailleurs.
Je dirais que les documentaires qui sont inspirants, c'est ceux qu'amène Daphné en tant que réalisatrice. C'est vraiment son regard d'auteur, et c'est plus elle qui m'a amené ces documentaires. Donc les références seront les mêmes, effectivement, parce que disons que moi, à la fois en tant que producteur et technicien pour le coup, et collaborateur, on va dire, mon but c'est d'essayer de rendre au mieux la volonté artistique et d'auteur de la réalisatrice, en l'occurrence Daphné. Donc mon but c'était vraiment de m'imprégner de ses références à elle pour pouvoir coller au mieux à ce qu'elle voulait, tout en apportant des idées sur l'utilisation de certains extraits de films ou sur la manière de construire certaines choses qui pouvaient... voilà, on est tout le temps dans l'échange en fait, et ça c'est ce qui est... C'est ce qui est particulièrement agréable dans notre travail, et le fait de se connaître très bien, d'avoir fait un certain nombre de films ensemble déjà, je saurais même plus dire combien, mais voilà, et on continue à en faire encore. On a pas mal de projets sur le feu. Cette collaboration, elle est à la fois très complémentaire et très très enrichissante à chaque moment. Et Daphné arrive à être toujours avec des idées fantastique. Et moi qui suis à la fois assez neutre et à la fois assez curieux de tout, elle me crée des passions, et ça je trouve que c'est assez fantastique ouais, de ce qui se passe dans cette collaboration. Justement, si je peux me permettre de parler un peu du prochain documentaire sur lequel on travaille,
ma prochaine question. Donc tant mieux, la transition est toute trouvée.
Le documentaire sur lequel on travaille, c'est King on Screen. C'est un documentaire sur les cinéastes qui ont porté Stephen King à l'écran.
Oh God, ok.
Et voilà, moi je suis pas un énorme fan de Stephen King à la base, mais je le deviens peu à peu, justement, en découvrant son œuvre à travers Daphné, qui, elle, est une grande fan et à qui ça tenait vraiment à cœur ce documentaire et cette œuvre, et de traiter de cette manière-là. Et du coup, c'est... voilà, à chaque fois, elle me fait mettre les pieds dans un univers que je connais pas forcément, mais qui me chavire, on va dire.
Il me tarde de voir ce documentaire sur Stephen King dont on a parlé dans ce festival grâce au documentaire sur Stanley Kubrick, donc Kubrick par Kubrick, à découvrir absolument. Merci Daphné, merci Sébastien, j'invite vraiment les cinéphiles à regarder ce film. C'est une lettre d'amour au cinéma indépendant américain, je pense que vous l'avez vu. Le producteur et l'autrice réalisatrice sont passionnés et passionnants. Découvrez ce film si vous aimez Deauville et si vous aimez le cinéma indépendant. Merci beaucoup à vous deux.
Merci beaucoup.
Voilà, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cet entourage au Festival américain de Deauville. Dites-nous sur les réseaux sociaux ce que vous avez pensé des documentaires, si vous les avez vus à Deauville ou si cette émission vous a donné envie de les voir. Kubrick by Kubrick, donc Kirk Douglas l'Indompté, disponible sur OCS Go, et puis Deauville et le rêve américain de Daphne by Weir, produit par Sébastien Cruz. Dans quelques mois, dans Entourage, un événement, puisque a été projeté à Deauville le documentaire Pierre et Lescure de Maxime Switek autour de Pierre Lescure. Pierre Lescure et Maxime Switek qui nous ont formulé l'envie de faire une émission avec nous. Ce sera donc dans quelques mois sur Beta Série, juste avant la diffusion du documentaire sur France 5. Nous nous retrouvons très vite pour un nouvel entourage, d'un festival à un autre, puisque la semaine prochaine a lieu le festival de télévision de Berlin. Ce sera en numérique. Nous aurons le bonheur de converser avec les équipes artistiques des séries Freud ou Unorthodox, par exemple, pour Netflix, ou encore Das Boot pour Starzplay, pour aller plus avant du podcast avec Stéphane Connarst d'il y a quelques semaines. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Vive le cinéma, vive les séries. On se retrouve donc très vite pour un nouvel épisode d'Entourage.
Entourage, présenté par Kevin Ellarby. Une bulle d'intimité sur Beta Série, la radio.